Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais aujourd'hui évoquer une personnalité qui a dominé le 19e siècle français. Je veux parler d'Alexandre Dumas. Enfin, celui qu'on a appelé par la suite Alexandre Dumas, père. Il était le deuxième à porter le nom d'Alexandre Dumas parce que Alexandre Dumas avait un père, bien sûr, qui était général. Et c'était ce général Dumas était le fils de Thomas Alexandre David de la pailleterie. Il était né à Saint-Domingue en 1762. Et sa mère était noire. C'est une esclave. C'est une esclave qui habitait une petite maison qu'on appelait le Mas. Donc on l'a appelée Dumas. C'était la fille Dumas. Et le nom est resté à son fils, à son petit-fils et à son arrière-petit-fils. Alors, le père d'Alexandre Dumas, celui que l'on connaît, il a d'abord été vendu par son propre père comme esclave. Puis il a été racheté et il est entré dans l'armée. Il a fait une carrière assez éblouissante. Il est devenu général, on l'a appelé désormais le général Dumas. Seulement, Il avait un tort, il parlait librement et il a osé dire au futur Napoléon Ier qui n'était pas d'accord avec lui. Il a été obligé de quitter l'armée. Il est mort en 1806. Sa veuve n'a pas eu de pension. Il avait épousé Marie-Louise Labouret, une fille d'hôtelier. Et pour survivre, cette dernière devenue veuve va tenir un bureau de tabac. Mais revenons au fils du général Dumas. C'est Alexandre Dumas qui est né en 1802, la même année que Victor Hugo, enfin quelques mois après Victor Hugo. Il est mort en 1870. Mais en 68 ans, on peut dire que celui qu'on a appelé plus tard Alexandre Dumas père a mené plus d'une vie. Il a été obligé de commencer à travailler à l'âge de 15 ans. Et puis, il a obtenu un emploi au Palais Royal, chez le duc d'Orléans. Déjà, il avait une vie assez agitée, une vie sentimentale, assez tumultueuse. C'est ainsi qu'en 1824, il a 22 ans, il a un fils qu'il va appeler Alexandre. Et très vite, il va trouver sa vocation. Et sa vocation, c'est l'écriture. C'est un incroyable. Il a écrit quelque chose comme 95 pièces de théâtre, 200 romans, 10 volumes de mémoire. C'est inouï. Et il a écrit aussi 19 ouvrages sur les voyages qu'il a effectués un peu partout dans le monde, notamment en Russie. Il a dirigé 8 journaux. Il a des revenus énormes. Et pourtant, en 1870, il meurt ruiné. Thank you. bonne société, considère un peu cet Alexandre Dumas comme quelqu'un qui n'est pas tellement fréquentable. D'abord, il est noir. Enfin, il est noir. Son père est noir. Sa grand-mère est noire. On raconte, alors là, je ne puis vous garantir la vérité de l'anecdote, mais c'est vraisemblablement vrai. Un imbécile qui un jour lui demandait « Monsieur Dumas, est-il vrai que votre père était nègre ?»« Oui, c'est ça, nègre !» Et Alexandre Dumas, superbe, répond « Oui. Mon père était noir, mon arrière-grand-père était un singe. Comme vous le voyez, ma famille finit par où la vôtre commence. » Il fallait oser le dire. Mais enfin, avec les imbéciles, on peut prendre certaines libertés. Et pour évoquer encore cette personnalité hors du commun, avec la postérité qu'elle a eue, on estime à 300 le nombre de films qui ont été tournés d'après ses œuvres. Alors, il y a bien sûr Les Trois Mousquetaires. Dès 1921, il y a un film muet des Trois Mousquetaires avec Douglas Fairbanks qui joue D'Artagnan. D'Artagnan, il y aura aussi Georges Marshall en 1953 avec un acteur merveilleux qui joue son valet, Bourvil. Il y a Le Comte de Monte Cristo avec Pierre-Richard Wilm, avec Jean Marais, avec Louis Jourdan. Il y a La Reine Margot avec Jeanne Moreau. Le Chevalier de Maison Rouge avec Michel Leroyer. C'est incroyable. Alors, bien sûr, et c'est l'ironie de la langue française, Alexandre Dumas, père, utilise des nègres, si j'ose dire. C'est-à-dire que des gens collaborent avec lui pour la rédaction des romans. Et en 1829, il est célèbre. Il est célèbre avec une pièce qui s'appelle Henri III et ses noces. C'est un an avant la fameuse bataille d'Hernani, écrit par Victor Hugo. Et puis il mène une vie. Il a 5 maîtresses. Une épouse légitime. En 1830, il va participer activement aux Trois Glorieuses. En 1831, il va connaître à nouveau la gloire au théâtre avec Antony. Antony, c'est une histoire d'adultère. Mais tous les amateurs de théâtre connaissent la dernière réplique de la pièce. Antony est l'amant d'une femme de la noblesse. Le mari arrive. Pour sauver l'honneur de sa maîtresse, Antony la tue. Et lorsque le mari entre dans la pièce, il lui dit « Elle me résistait, je l'ai assassinée. » La réplique est restée dans la mémoire collective. Et en même temps, il continue à écrire pour les journaux. Et une chose est intéressante. Avant de parler plus en détail de son fils, Alexandre Dumas fils, c'est évoquer les rapports qu'il avait avec cet enfant. Avec cet enfant qui allait devenir pratiquement aussi célèbre que lui. Lorsque, j'anticipe un peu là, mais lorsque Alexandre Dumas fils fait jouer au théâtre La Dame aux Camélias, c'est un succès monumental. Et le fils écrit à son père en disant que ça a été un succès. Et Voici comme il écrit, grand succès, si grand que j'ai cru assister à la première représentation d'une de tes pièces. Et le père a répondu, mon meilleur ouvrage, c'est toi, mon cher enfant. Belle réplique, non ? D'amour paternel. Mais revenons à la carrière. Alors, Antony, précisons qu'il a été joué, la pièce a été jouée par Marie Dorval. Et c'est aussi à la même époque, vers 1832, que commence à apparaître les romans qui vont faire le succès d'Alexandre Dumas père, avec La Tour de Nesle en 1832, un parfait mélodrame. Un parfait mélodrame sur ce qui se passait à la Tour de Nesle entre les trois sœurs qui n'hésitaient pas à faire jeter leurs amants dans la Seine. Signalant au passage que Maurice Druon s'en est souvenir pour ses rois maudits. Et malheureusement, Dumas va avoir cette réputation d'auteur de mélodrame. Il ne sera pas considéré vraiment comme un écrivain sérieux. D'ailleurs, il n'est jamais entré à la Comédie française, à l'Académie française. Oh. Honoré de Balzac non plus n'est pas entré à l'Académie française. Mais quand on regarde la liste des gens qui, à l'époque, étaient à l'Académie française et dont pratiquement aucun n'a laissé de souvenir dans la mémoire collective, on se dit que peut-être c'était mieux qu'Alexandre Dumas ne soit pas à l'Académie française. Je vous propose une pause musicale.
Souffle qui passe de la terre.
Au théâtre, après Anthony, il va produire une pièce qui s'appelle Kin, d'après l'auteur anglais, l'acteur anglais, pardon, et qui sera jouée par Frédéric Lemaître. Mais c'est en 1844 qu'éclate le coup de tonnerre que seront les Trois Mousquetaires. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que ces Trois Mousquetaires, qui, comme chacun sait, étaient quatre, puisque D'Artagnan va devenir mousquetaire à la fin, ils ont existé. Dumas ne s'est pas fié à sa seule imagination. Il est parti de personnages réels. Le plus connu, D'Artagnan, on est à peu près certain de sa biographie. Et je rappelle rapidement l'intrigue. La reine de France, Anne d'Autriche, a cédé des ferrets au duc de Buckingham. Mais ces ferrets lui avaient été donnés par le roi, Louis XIII. Et Richelieu, espérant faire chuter la reine, a suggéré au roi d'organiser un bal. D'Artagnan va partir à Londres, trouver le duc de Buckingham. Malheureusement, il arrive trop tard. Une espionne de Richelieu, Milady de Winter, a déjà subtilisé des diamants. Heureusement, Buckingham en fait refaire et tout rentrera dans l'ordre. Alors, devant le succès des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas va donner deux suites. La première en 1845, 20 ans après. Alors déjà, c'est Mazarin qui est en scène au temps de la Fronde. Et puis, en 1848, il va y avoir le troisième volet, le vicomte de Bragelonne, où Alexandre Dumas se lance dans une explication pour le moins hasardeuse sur l'identité du fameux masque de fer. Alors, entre-temps quand même, il y a eu en 1844 le Comte de Monte Cristo. Une histoire qui est sûrement dans toutes vos mémoires, l'histoire de Edmond Dantès, condamné à tort, emprisonné au château d'If à Marseille, et qui arrivera à s'évader et à se venger en revenant dans sa ville natale. Et ce qui est amusant, si vous allez à Marseille, si vous visitez le château d'If, on vous montrera le trou par lequel Edmond Dantès a réussi à entrer en contact avec le prisonnier voisin, l'abbé Faria, qui lui donnera la recette pour devenir riche. Et puis, il y a aussi en 1847 un autre roman, Le Chevalier de Maison Rouge. Et comme pour les Trois Mousquetaires, Le Chevalier de Maison Rouge a existé. Il a effectivement essayé de faire sortir Marie-Antoinette emprisonnée au temple. Évidemment, comme dans l'histoire réelle, il n'a pas réussi et Marie-Antoinette finira sur l'échafaud. Oh. Pour ne pas quitter Marie-Antoinette, citons aussi un roman basé également sur une histoire vraie. Le collier de la reine. Vous savez, ce fameux collier qui aurait été vendu à Marie-Antoinette, alors qu'en fait, C'était une presque sosie qui avait réussi à tirer de l'argent au cardinal de Rouen. Et si Alexandre Dumas, père, continue encore à intéresser à peu près tous les historiens, ses livres de mémoire sont de plus en plus étudiés avec attention. On se rend compte qu'il a été un témoin impartial, essayant de comprendre les événements et toujours très attentif à ce qui se passait autour de lui.
Thank you.
voudrais à présent évoquer le troisième Alexandre Dumas. Il y a eu le général Dumas, Alexandre Dumas père, et il y a eu aussi Alexandre Dumas fils. Mais alors là, on peut dire que on passe dans un autre univers. Parce que Alexandre Dumas fils, qui est né en 1824, son père avait 22 ans, qui est mort en 1895, 25 ans après son père, a parfaitement réussi sa vie d'homme de lettres. D'ailleurs, on l'a fait entrer à l'Académie française à l'âge de 50 ans, en 1874. Comme quoi, si le père avait été ignoré par l'illustre Académie française, cette dernière n'a pas voulu peut-être passer à côté de la célébrité du fils. Et pourtant, si on regarde bien, qu'est-ce que Alexandre Dumas, fils, a écrit de si mémorable? Si, un roman dont il a fait une pièce et qui est paru en 1848, qui s'appelle « La Dame aux Camélias ». Ah, un succès incroyable. On peut dire que ce succès dure toujours, puisque un des plus grands auteurs d'opéra du monde, Giuseppe Verdi, en a fait une œuvre impérissable, La Traviata. La Traviata qui est toujours jouée sur les scènes lyriques du monde entier, qui tente les plus grandes cantatrices. Ah, la Dame aux Camélias, l'histoire de cette courtisane amoureuse qui meurt de tuberculose, très jeune, dans les bras de celui qui aura été son unique et immense amour. Seulement voilà, en dehors de la Dame aux Camélias, qu'est-ce que Alexandre Dumas fils a laissé à la postérité? Oh, dans les encyclopédies, on va trouver surtout deux pièces. Le fils naturel en 1858. Notons au passage que le titre reprend celui d'une œuvre de Diderot, Le fils naturel. Et puis en 1859, une autre pièce, ben, Le père prodigue. En dehors de ça, j'ai cherché un peu partout. J'ai cherché dans les catalogues de librairies, tout ça. Je n'ai rien trouvé qui ait été écrit par Alexandre Dumas fils. Finalement, la gloire de la famille commençait en fanfare avec le général, continuait plus que brillamment avec Alexandre Dumas père, s'éteint avec Alexandre Dumas fils. Mais c'est quand même intéressant de voir comment trois générations se sont succédés et que dans ces trois générations, chacun des Dumas a été au sommet de la gloire, durablement pour Dumas père, brièvement pour le général Dumas et très épisodiquement pour Dumas fils. Je vous remercie de m'avoir écouté.